d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Avec ce soir avec Ludo.
Bonsoir.
Bonsoir Ludo. Christophe, bonsoir Christophe.
Bonsoir à tous.
Et bien sûr Claude à la technique. Ce soir c'est une émission spéciale négociation inédite. Nous allons commencer par une conférence débat des économistes atterrés du 9 février 2019. Sur les négociations, bien sûr, avec Claire Vivès, sociologue, et Anne Pretel, économiste.
Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus, nombreux, nombreuses. Donc voilà, aujourd'hui, on a une conférence débat sur les négociations de l'assurance chômage vers plus de devoirs et moins de droits, point d'interrogation. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que en fait l'actualité est assez brûlante. C'est quand même la deuxième négociation sur l'assurance chômage en un an, avec des objectifs fixés par le gouvernement d'économie qui sont tout à fait drastiques. Et puis des changements institutionnels peut-être qui se dessinent avec la suppression des cotisations salariales qui posent peut-être la question du devenir du paritarisme. Et puis enfin, dans la loi Avenir professionnel, un nouveau renforcement du contrôle des chômeurs. Donc voilà, et au centre des négociations, la question de la précarité, des contrats courts, de l'éventualité de mettre en place un bonus-malus. Donc pour évoquer tous ces sujets, on a fait venir des spécialistes de ces questions qui sont d'abord Denis Gravouille de la CGT, qui est responsable emploi, chômage et négociateur pour la CGT, donc qui pourra, je pense, nous parler des négociations, y compris de l'intérieur. On a invité Anne Pretel, qui est une des nôtres, économiste atterrée, maîtresse de conférences d'économie à Lille, et qui va évoquer la question des droits et devoirs des chômeurs, l'acte 1 de la réforme de l'assurance chômage, le renforcement du contrôle des chômeurs. Et enfin, Claire Vivès, qui est sociologue, qui a travaillé sur la question des activités réduites notamment, donc qui connaît bien les règles de l'assurance chômage et qui pourra évoquer la question des contrats courts. Donc ma première question, c'est pour Claire Vivès, puisque aujourd'hui la question des contrats courts est au centre des débats. Donc pourquoi est-ce qu'elle est aussi centrale dans les négociations sur l'assurance chômage?
Alors pour répondre à cette question, je vais commencer par vous rappeler quelques généralités sur l'assurance chômage. Ce sera sans doute pas nécessaire à tout le monde, mais c'est bien qu'on parte tous, enfin qu'on ait tous les mêmes informations. Donc l'assurance chômage, comme son nom l'indique, c'est une assurance, c'est-à-dire que les salariés cotisent pour se protéger contre le risque chômage, et donc lorsque le risque chômage survient, ils perçoivent une indemnisation. Je rentre pas dans les détails pour l'instant sur l'évolution qu'a évoqué Anne, par exemple, sur la question de la cotisation, mais avoir ça en tête. Ça, c'est le système de base, j'allais dire. Sauf que en France, cette manière-là d'être indemnisé ne couvre pas tout le monde. Puisque aujourd'hui, si on parle des chômeurs indemnisés, vraiment indemnisés, il y a 43% des chômeurs inscrits à Pôle emploi qui sont indemnisés. Les autres vont soit percevoir l'allocation de solidarité spécifique, qui est une allocation versée par l'État, soit le RSA, soit aucune forme d'indemnisation. Aujourd'hui, il y a 18% des chômeurs qui ne perçoivent, des inscrits à Pôle emploi, qui ne perçoivent aucune forme d'indemnisation. Je précise inscrits à Pôle emploi parce que tous les chômeurs ne sont pas nécessairement inscrits à Pôle emploi. Enfin, toutes les personnes qui souhaiteraient travailler ne sont pas nécessairement inscrites à Pôle emploi. Donc, ceci étant rappelé, il y a une autre particularité, c'est qu'aujourd'hui, la frontière entre le chômage et l'emploi se brouille. Sous l'effet du développement de ce qu'on a appelé les emplois atypiques, c'est-à-dire les emplois salariés autres que les CDI. Et donc, on est dans une situation où un demandeur d'emploi inscrit sur trois travaille et un allocataire sur deux travaille. Ça brouille les catégories et donc on est loin de cette idée du chômeur qui resterait chez lui en attendant donc il faut avoir en tête ça, que une partie de plus en plus importante des demandeurs d'emploi travaille, et c'est ce qui fait que cette question des contrats courts elle est de plus en plus centrale. Alors parmi les deux demandeurs d'emploi qui travaillent, certains sont indemnisés, d'autres ne le sont pas. Il y a des règles de cumul qui autorisent en fait de percevoir à la fois des revenus du travail, à la fois des allocations. Je ne rentre pas dans les détails, c'est des règles qui sont relativement complexes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on cumule un revenu d'allocation et un revenu du travail, on ne peut de toute façon pas gagner plus que ce qu'on gagnait avant d'être au chômage. Et se développe donc une nouvelle catégorie de demandeurs d'emploi. Je suis désolée, c'est un peu complexe, mais une nouvelle catégorie de demandeurs d'emploi qui sont ce qu'on appelle les demandeurs d'emploi indemnisables, non indemnisés. Et ça, c'est une catégorie qui est très importante, qui représente aujourd'hui 25% des allocataires, quasiment. Donc je vous parle pas d'un petit détail. Et donc ces indemnisables, non indemnisés, ce sont des personnes qui ont des droits au chômage, qui travaillent, mais dont les revenus du travail sont trop importants pour qu'elles perçoivent une indemnisation. Donc pendant les mois où elles sont indemnisables, non indemnisées, elles ne coûtent rien à l'assurance chômage. Voilà ce que je voulais préciser, un peu pour les catégories. Dans cette négociation, ce qu'on a vu apparaître, alors pour le coup c'était en amont de la négociation, puisque c'était beaucoup de propos gouvernementaux, mais il y a eu l'idée que cette situation de cumul entre l'emploi, les revenus du travail et les revenus d'allocation serait trop favorable, et que donc il faudrait revoir ces règles parce que les demandeurs d'emploi préféreraient cette situation intermédiaire entre le chômage et l'emploi plutôt que d'aller vers un emploi, un emploi total. Avec derrière l'idée que l'emploi total, y en aurait. et que ce serait un choix, finalement, que de vivre de cette manière. Alors, premier élément de réponse, on peut se référer, donner quelques ordres de grandeur sur les montants, les niveaux d'indemnisation. Ça permet déjà d'enlever certains fantasmes sur le confort qu'il y a à être au chômage en France, puisque aujourd'hui l'allocation médiane, donc là l'allocation médiane c'est 950 euros. Donc il y a la moitié des chômeurs qui perçoivent moins de 950 euros par mois net. Ça, c'est confondu entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et il y a 75% des demandeurs d'emploi qui perçoivent moins indemnisés, qui perçoivent moins de 1200 euros. Donc, là encore, je pense que c'est une première réponse à cette idée que ce serait vraiment très confortable d'être au chômage. À côté de ça, il faut avoir en tête que ces politiques d'activité réduite, c'est-à-dire l'autorisation de cumuler des revenus du travail et l'indemnisation, sont des politiques qui sont développées dans le droit commun de l'assurance chômage depuis 1983, avec une démarche qui a consisté à les rendre de plus en plus incitatives. Je ne rentre pas dans les détails des règles, mais en gros, les possibilités de cumul sont devenues de plus en plus souples. Auparavant, il y avait des seuils, ils ont maintenant disparu, et donc Voilà, c'était l'idée qu'on allait inciter les demandeurs d'emploi à reprendre ces emplois courts pour pas qu'ils restent enfermés dans le chômage de longue durée, avec l'idée qu'un emploi court vaudrait mieux que pas d'emploi du tout, et que l'emploi court serait une marche, un tremplin vers l'emploi normal. Bon, il se trouve que c'est pas si vrai que ça, mais c'était en tout cas l'idée qui était sous-jacente à ces politiques d'activité réduite. Et donc, après avoir lourdement, pendant des années, incité les demandeurs d'emploi à prendre ce type d'emploi, il y a aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce discours selon lequel ce système serait malgré tout trop favorable, et donc il faudrait revenir dessus. Juste un dernier chiffre pour vous dire que aujourd'hui, en moyenne, le fait de travailler, ça apporte aux allocataires 10% de revenus en plus. Donc on n'est pas du tout sur des sommes par rapport à ce qu'ils percevraient s'ils ne percevaient que leur allocation. Donc voilà, ces éléments pour vous dire que la situation aujourd'hui d'un demandeur d'emploi n'est pas si favorable que ça, et aussi que cette question des contrats courts est centrale parce que les catégories des demandeurs d'emploi qui travaillent sont celles qui ont le plus augmenté depuis 2010 et qui continuent à augmenter, même quand les chômeurs qu'on appelle en catégorie A, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas du tout, même quand leur nombre est stable, voire diminue légèrement, cette catégorie des chômeurs qui travaillent, elle, augmente fortement, d'où le fait que ce soit au centre. On reviendra plus tard sur la question du financement de ce type d'activité réduite.
Donc voilà, quand on t'écoute, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir affaire à des chômeurs profiteurs. Donc comment on peut expliquer, Anne, qu'il y ait un tel accent aujourd'hui qui soit mis sur le contrôle des chômeurs? Et puis est-ce que tu peux nous dire aussi quelle forme prend ce contrôle?
Bonsoir. Alors la question du contrôle des chômeurs s'inscrit dans une histoire longue, avec l'idée qu'il faut discipliner la main-d'œuvre et s'assurer qu'elle soit suffisamment disponible pour les besoins de l'économie. Évidemment, derrière, avec un jugement de morale sur les bons pauvres, les mauvais pauvres, les bons chômeurs, les mauvais chômeurs. Et dernièrement, le président Macron a beaucoup usé de cette rhétorique, puisqu'il y a ceux qui méritent, ceux qui font des efforts, ceux qui déconnent, je cite, et ceux qui coûtent un pognon de dingue. Donc on voit bien qu'on est dans cette rhétorique-là de discipliner, de contrôler et de distinguer finalement le bon grain de livret. Ce discours moral a trouvé aussi un appui à travers la théorie économique dominante, puisque les économistes ont mis en avant que finalement le chômage pouvait aussi s'expliquer par le comportement des demandeurs d'emploi et le fait finalement que certains individus ne fourniraient pas assez d'efforts pour aller travailler, donc ils augmenteraient leur durée de chômage. Pourquoi ils ne fourniraient pas ces efforts? Parce qu'en fait, ils sont dans un calcul monétaire où ils comparent la situation et le bénéfice du fait de recevoir leur allocation chômage comparé au potentiel salaire qu'ils pourraient aller trouver sur le marché du travail. Et donc l'argument de la théorie économique dominante, c'est de dire à partir du moment où le chômeur considère que sans travailler, il a un niveau de vie suffisamment confortable... On voit bien que Claire a démonté cet argument, mais c'est quand même l'idée dominante. Dans ces cas-là, le chômeur n'a aucun intérêt à aller sur le marché du travail et se fatiguer pour aller récupérer un salaire. Et donc, cet argument économique a nourri très fortement les programmes de l'OCDE, du FMI, de la Commission européenne, et s'est mis en avant le fait qu'il fallait renforcer le contrôle des chômeurs en mettant des systèmes de contrôle pour faire un effet menace. Donc c'est un peu comme quand on met des radars sur la route. L'idée, c'est de dire attention, il y a des radars, il y a des contrôles potentiels, donc vous devez tous chercher un emploi. Donc c'est un effet menace. Et on a aussi des sanctions, les sanctions visant à rendre crédibles ces contrôles. Si vous vous faites attraper, vous allez perdre le bénéfice de l'allocation chômage. L'idée étant derrière à la fois de rendre crédibles ces sanctions, mais aussi d'éviter la récidive. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la loi concernant l'avenir professionnel, donc qui réformait tout le système de formation continue, qui a été publiée en septembre dernier, renforce très fortement l'ensemble des contrôles et des sanctions adressées aux chômeurs. C'est une loi, en fait, qui a été très peu négociée, puisque très vite, le gouvernement a repris la main sur les partenaires sociaux, en trouvant que leurs propositions de réforme concernant le système de formation professionnelle n'était pas assez innovant, n'allait pas assez loin et ne rénovait pas assez le système de formation professionnelle. Donc c'est le gouvernement qui a pris la main dans l'écriture de cette loi. Et au milieu de cette loi, il a logé un certain nombre d'éléments, donc dans le titre 2 de la loi, qui portent spécifiquement sur le contrôle des chômeurs. Donc c'est notamment le chapitre 3 du titre 2, et je cite, qui met en avant des dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d'emploi et aux sanctions. Et là-dedans, on a trois articles qui rénovent totalement le cadre du contrôle des chômeurs. Premier élément, et là, finalement, dans le débat public, c'est apparu le 30 décembre dernier, quand le fameux décret qui faisait suite à la mise en place de cette loi a été publié, c'est le renforcement du cadre des sanctions. Donc les sanctions sont dorénavant beaucoup plus fortes, puisque dès le premier impair, finalement, dès le premier manquement du demandeur d'emploi dans sa recherche d'emploi, il peut être directement radié pendant un mois et voir le montant de son allocation réduit de 50%, là où avant on avait simplement une suspension de 15 jours et potentiellement une baisse de l'allocation chômage de 20%. Et ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que ce que change cette loi, c'est la personne qui décide de la radiation. Avant, dans le système, Pôle emploi mettait en avant qu'une personne pouvait être sanctionnée, mais c'est le préfet qui, in fine, prenait la décision de radier ou non un demandeur d'emploi. Ça veut dire que finalement, on introduisait un tiers dans la relation entre le demandeur d'emploi et Pôle emploi, on introduisait un tiers qui avait moyen de relire un peu l'ensemble du dossier de la personne et de réexaminer s'il y avait défaut ou non dans la recherche d'emploi. Là, depuis la loi de septembre dernier, c'est Pôle emploi qui finalement est juge et partie et qui décide ou non de la radiation du demandeur d'emploi. Deuxième élément, tout ce qui concerne l'offre raisonnable d'emploi. Donc depuis longtemps, alors l'offre raisonnable d'emploi a notamment été rénovée en 2008. C'est une offre qu'en principe un demandeur d'emploi ne peut pas refuser plus de deux fois sous peine finalement de se voir radié. Cette offre dépendait du salaire antérieurement perçu, des compétences professionnelles de la personne et puis d'une zone géographique qui était définie avec le conseiller. Là, le décret n'est pas encore totalement passé, mais ce qui est mis en avant, c'est d'une part, il ne pourra plus y avoir plus d'un refus d'une offre raisonnable d'emploi. Et cette offre raisonnable d'emploi change énormément dans ses paramètres, puisque dorénavant, elle va être librement négociée. Reste à savoir comment elle va être librement négociée avec le conseiller. Donc l'idée, c'est que finalement, le demandeur d'emploi et le conseiller seraient à jeu égal et aurait la même capacité de dialogue et la même capacité de négociation sur l'offre raisonnable d'emploi. Quiconque qui est allé dans une agence de Pôle emploi sait très bien que le face-à-face entre un conseiller et un demandeur d'emploi ne se fait pas forcément à jeu égal. Et donc l'élément qui a été publié dans le décret du 30 décembre dernier, c'est le fait que finalement, le salaire antérieur du chômeur qu'il percevait antérieurement n'est plus un élément de référence. La seule barrière, c'est finalement de dire que le salaire ne peut pas être inférieur au salaire en moyenne pratiqué dans la région. Donc potentiellement, ça peut être largement inférieur à ce que la personne percevait précédemment. Théoriquement aussi, cette offre raisonnable d'emploi devra être compatible avec les compétences de la personne et le conseiller ne pourra pas imposer de temps partiel. Mais évidemment, tout reste une affaire de négociation. Et là, il y a un vrai enjeu de voir comment va être mis en place le nouveau cadre de cette offre raisonnable d'emploi. Troisième élément, toujours présent dans la loi de septembre, la loi « Choisir son avenir professionnel », qui concerne une logique d'activation et le fait qu'on introduise un carnet de bord. Donc dorénavant, au moment où le demandeur d'emploi va voir son conseiller pour se réactualiser, il doit montrer ce qu'il a fait dans le mois précédent en termes de recherche d'emploi. Et sur la base de la lecture de son carnet de bord, où il aura mentionné tout ce qu'il a fait durant le mois suivant, le conseiller décidera qu'il a effectivement ou non fait des actes répétés de recherche d'emploi. Alors évidemment, tout l'enjeu est de savoir en pratique, parce que ça n'a pas encore été mis en place, ça va être mis en place dans les mois qui viennent à Pôle emploi, quel usage va faire le conseiller, à quel point ça va être coercitif ou non pour le demandeur d'emploi, et jusqu'où ça va normaliser la recherche d'emploi. Qu'est-ce que le conseiller attend concrètement de ce carnet de bord ? Est-ce que si on met qu'on a vu d'anciens collègues, qu'on allait discuter avec eux pour stimuler des pistes d'emploi, est-ce que le conseiller va considérer que c'est de la recherche d'actifs d'emploi ou que c'est du bavardage ? Est-ce que le conseiller s'attend simplement à ce qu'on envoie des CV, des lettres de motivation, ou alors qu'on se connecte X heures par semaine sur le site de pôle-emploi.fr ? Si on prend le cas du Royaume-Uni, un demandeur d'emploi a un nombre d'heures de connexion obligatoire au site du Job Center pour montrer qu'il fait effectivement un acte positif de recherche d'emploi. Donc là, on a clairement le cadre de la loi qui a été posé, les décrets d'application qui sont en train d'être définis et qui changent fondamentalement le cadre de la recherche d'emploi.
Et non, ce n'était pas un Larsen, c'était simplement du free jazz expérimental de Roy Natachon et d'Anthony Coleman. Ça s'appelle Intro to Twam, pardon. Et vous venez d'entendre juste avant, donc c'était Claire Vivès et Anne Pretel, économistes atterrés et sociologues, qui parlaient donc dans le cadre de la conférence débat des économistes atterrés, des négociations inédites, bien sûr. C'est donc l'émission de ce soir. Nous sommes bien sûr sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Avec Ludo, Christophe.
Bonsoir. Alors, je précise que nous ne sommes pas responsables des choix musicaux de certains.
Mais c'était rigolo. C'était sympa.
Et que malgré tout, la vie est belle. Ne nous quittez pas.
Et bien sûr, c'était une. Voilà. Et Claude à la technique. On va reprendre cette émission, bien sûr, sur les assurances chômage et bien sûr les négociations unédiques. Comme vous le savez bien, la presse en a beaucoup parlé. Pendant un moment, pour l'instant, elles sont effectivement arrêtées, les négociations, parce que le MEDEF a claqué la porte, parce que apparemment le malus bonus sur les contrats courts apparemment ne leur plaisait pas trop. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui, Ludo, sur justement ces négociations qui sont à plus ou moins arrêtées? Est-ce qu'il y a des nouveautés?
Alors, c'est comme je dis ce que tout le monde sait, hein, c'est que pour la première fois, en fait, la deuxième fois exactement, donc depuis la dernière fois, c'était en 1982, l'État reprend complètement la main et légifère à la place de la négociation, c'est-à-dire que le paritarisme a un peu de plomb dans l'aile, puisque les deux partenaires ne peuvent décidément plus se mettre d'accord. Ce qui fait dire d'ailleurs au MEDEF qu'il envisage très sérieusement de se retirer de tous les organes paritaires, de toutes les négociations paritaires, c'est-à-dire y compris l'assurance maladie.
Ouais,
alors vous me direz, c'est le MEDEF, c'est vraiment des enfoirés, hein. On est sur FPP, alors je peux utiliser des gros mots, et vraiment, vraiment c'est lamentable. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, parce que effectivement, étrangement, pour une fois, les syndicats donc de salariés et les syndicats patronaux sont d'accord sur une chose, l'État abuse. Oui, il abuse de sa position dominante. Et pour le comprendre, il faut remonter il y a 10 ans, presque jour pour jour, à l'époque où naissait le Pôle emploi, de la fusion de l'UNEDIC et de la NPE. Donc cette fusion correspondait en fait à une absorption de l'UNEDIC, de la NPE par l'UNEDIC. Et en contrepartie, l'UNEDIC s'était donc engagé. Alors, on a vu toutes les modifications de statut que ça représentait pour le personnel, hein, puisque c'était la fin de l'étatisation de l'UNEDIC, les fonctionnaires étaient réduits. Mais en contrepartie, l'UNEDIC, qui absorbait la NPE, garantissait d'affecter 10% de ses, j'allais dire de son excédent. Alors donc évidemment, il n'est pas de son chiffre d'affaires, mais des cotisations
des salariés
au fonctionnement de l'UNEDIC, et l'État compensait le reste et avait juré promis cracher comme d'habitude qu'il compenserait le reste. Résultat, 10 ans après, l'État ne contribue plus que à un tiers en fait des recettes du fonctionnement de Pôle emploi, contre 10% des cotisations des salariés au fonctionnement de Pôle emploi, ce qui représente
une perte considérable.
10%, ce qui est énorme. Et donc, sans surprise, si je vous dis qu'il y a quand même nettement plus de salariés que de chômeurs, ça va peut-être pas durer, diront certains. Oui. Enfin, c'est encore le cas. Et donc, sans surprise, les recettes de l'UNEDIC sont en fait, le bilan sont en fait excédentaires annuellement.
Absolument.
Et ce qui coûte, c'est ce qui est affecté, enfin ce qui provoque le déficit, et ce qui correspond à peu près au chiffre déficit, c'est bien la somme qui est versée au fonctionnement de Pôle emploi. Eh oui, c'est QFD. Alors, j'y dis ça, j'exagère un petit peu, parce que il est vrai que vous êtes aperçu, comme on l'a dit dans le reportage, qu'il n'y a plus que 43% de chômeurs indemnisés, et que, bien entendu, il s'agit de réduire régulièrement les fonctionnements de, enfin, les droits, pardon, des chômeurs. Mais disent les organisations patronales et syndicales et de salariés, d'un commun accord, l'État se rattrape sur les ressources de l'UNEDIC, et pour baisser un déficit cumulé qu'il a lui-même provoqué, quelque sorte, en renonçant à l'étatisation de l'UNEDIC, grogne sur les droits des plus précaires et des chômeurs. Pourquoi? Parce que, effectivement, pour combler le Pôle emploi, mais aussi parce que il doit compenser les cadeaux fiscaux qu'il a fait aux entreprises, à droite, à gauche, et il doit les compenser. Pourquoi? Parce que le déficit de la sécurité sociale est compté comme le déficit de l'État auprès de l'Europe.
Absolument. Hein,
c'est un déficit cumulé. Et donc, les deux déficits. Et donc, pour réduire le déficit global, eh ben, on va rogner les droits, des quelques chômeurs pour réduire le déficit de l'UNEDIC, c'est QFD. Et donc, les, syndicats patronaux et salariés en commun accord dénoncent justement cette logique contradictoire qui veut qu'on étatise d'une certaine façon le dialogue social et l'UNEDIC, c'est-à-dire via la, hein, vous,
je vais pas vous faire,
l'intervention en fait de l'État via le financement de l'État, et en même temps de ne pas lui laisser justement de ne pas aller au bout de la logique qui consiste à prendre en charge directement Pôle emploi et le fonctionnement de Pôle emploi qui grève le budget de l'UNEDIC. Voilà. Et
mais je croyais qu'il y avait pas, parce qu'on avait pu lire ici et là qu'effectivement certains disaient que c'était plutôt pas excédentaire, mais qu'effectivement il y avait à gagner en fait sur l'UNEDIC, que l'UNEDIC perdait de l'argent
annuellement l'UNEDIC.
Oui. Donc finalement c'est excédentaire ou pas, parce qu'il y aurait pas un mensonge d'État là derrière le fait qu'il pense que
en fait le phénomène a été relevé dès 2011 par la Cour des comptes, qui dit qu'en fait si tu fais le solde brut ou le solde net, je sais pas comment on dit, des droits consommés par les chômeurs, oui, et des cotisations payées par les salariés, le régime est bénéficiaire ou à l'équilibre.
D'accord.
Mais effectivement à une époque, je veux pas dire de bêtises, ça coûtait, le Pôle emploi, le fonctionnement de Pôle emploi, coûtait 1 milliard, oui, et c'est ce qui plombait les comptes. Or, 1 milliard chaque année, effectivement, vous avez un déficit qu'il faut résorber, et donc, vous baissez les droits des chômeurs en période de crise, hein, bien sûr.
Oui,
parce
bien
que
sûr,
une croissance qui a disparu depuis belle durée, qui s'est évanouie, évaporée, et évidemment que l'UNEDIC se désendette.
D'accord.
Oui, sauf. Sous couvert d'anonymat, beaucoup de conseillers Pôle emploi qui donc ont vécu la fusion ANPE UNEDIC le disent clairement. Le déficit structurel de l'UNEDIC, il a été clairement organisé par l'État, d'abord pour se désengager vis-à-vis de ses critères européens, parce qu'il n'y a pas de petites économies, comme tu le rappelais à l'instant, mais pour une autre, c'est que ça a toujours été un mécanisme, un levier de pouvoir pour rogner sur les plus précaires et les plus en difficulté. C'est une évidence. Alors, ce qui est le retour de balancier, si tu veux, c'est que cette précarité qui a complètement explosé au cours de ces 20 dernières années, a abouti à l'instauration du RMI qui est devenu par la suite le RSA. Et la contradiction, c'est que dans les déficits, c'est aujourd'hui les collectivités territoriales qui payent au prix fort ce désengagement profond de l'État. Déjà d'une part, donc c'est donc pour respecter des critères maastrichtiens complètement aberrants, on a participé au déficit même des collectivités territoriales. J'ajouterais que un exemple très concret de cette logique-là, c'est par exemple l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire que les critères aujourd'hui pour bénéficier de cette aide à la solidarité d'État sont tellement difficiles, 80% d'invalidité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être totalement, inapte à l'emploi, mais plus, pour bénéficier de ça du fait des accidents de la vie. Et la conséquence de ça, c'est que on assiste aujourd'hui, et les chiffres et les statistiques le démontrent, que beaucoup de gens sont entre 50 et 80%, 79% de taux d'invalidité. On sait très bien du fait de leur état de santé, plus le critère de l'âge, qu'ils ne retrouveront pas d'emploi. Et donc, c'est la solidarité nationale des collectivités territoriales qui joue à plein par rapport à eux.
On a reporté, en fait, le poids de l'âge et du RSA sur les collectivités territoriales.
Sachant que, contrairement à ce qu'on peut prétendre, les cotisations patronales, salariales, l'USAF, etc., ça peut plomber effectivement la trésorerie des micro-entreprises, des auto-entrepreneurs, etc., etc., tout ce qui est tissu économique local et peu développé, mais ça n'a jamais plombé la trésorerie des grands groupes du CAC 40. Mmh. Non mais, je veux dire, donc c'est un déficit structurel qui n'œuvre pas pour la paix sociale et qui a clairement été provoqué, qui aujourd'hui même pénalise de fait l'emploi de façon globale en France.
Alors moi j'ai quand même une question à poser à tous les deux, c'est comme l'État reprend la main par rapport aux partenaires sociaux, est-ce que vous avez une idée du futur qui va se, pour la suite,
je crois que dans le
l'État va garder la main tout le temps ou est-ce que effectivement ils vont redonner la main aux négociateurs?
Ah non, là a priori c'est fini, là, fini pour là, cette pour cette négociation là.
D'accord.
Donc tu n'as pas suivi les conférences de presse de madame Pénicaud?
Non, effectivement, parce qu'il m'intéresse pas beaucoup
le sujet. Oui, je comprends. C'est le sujet est suffisamment grave pour qu'il y ait une conférence de presse qui bien annonce sûr, effectivement ouais. Est-ce que ce sera une loi ou un décret? Mais c'est toujours été le cas, hein. C'est-à-dire que les négociations juridiques sont toujours validées après par la loi. Ce qui fait dire à certains qu'en fin de compte, le dialogue social a toujours été un peu contraint quand même, hein, dans ce pays. Mais là par contre, ce sera le gouvernement lui-même qui va édicter des décrets ou des lois pour définir les règles des chômeurs. Mmh. Et donc la loi passera pendant l'été, pendant que personne n'est là.
Voilà. Ah, bah
évidemment.
Voilà.
Et donc, les annonces.
Elle a été reportée après les élections européennes.
D'autant que la feuille de route qu'a donné l'État aux négociateurs, c'était quand même très restreint. Apparemment, tout le monde s'en est plein.
Bien sûr, parce que. Donc, <c'était... rire> évidemment, puisque tu donnes un champ contraint, c'est-à-dire budgétairement, il leur a donné une lettre où il leur a dit vous avez tant de milliards d'économies sur 3 ans.
Les deux fédérations.
Sauf que, en 2017, les partenaires sociaux avaient déjà faire un effort. Et bien entendu, en fait, derrière, il y a évidemment la garantie de l'État pour les emprunts sur les marchés financiers. Un truc à savoir, l'UNEDIC emprunte sur les marchés financiers pour financer sa dette. Mais elle le fait grâce à la garantie de l'État. Donc l'État, et en plus, l'État s'est engagé à financer une partie des suppressions des cotisations qu'il a généreusement accordées aux employeurs. Et donc à pouvoir, ce qui était annoncé dans le programme de M. Macron, pouvoir intervenir directement dans les négociations. Ainsi, et donc, les syndicats patronaux comme, bon, il faut reconnaître, hein, le patronat n'était pas pour le bonus-malus, ont en définitive refusé de jouer le jeu que leur imposait l'État.
D'accord, merci.
Alors, merci à toi. Indirectement, non, c'est aussi une habile manœuvre politique d'Emmanuel Macron.
Christophe.
Habile, je ne sais pas, parce que par les temps qui courent.
Je vous propose d'écouter maintenant Denis Grabouille, négociateur pour la CGT pour la négociation UNEDIC.
Alors, Denis Grabouille, la question qu'on se pose maintenant, c'est voilà, comment est-ce qu'elles se déroulent, ces négociations, dans le contexte d'aujourd'hui. Peut-être que voilà, vous allez pouvoir nous dire comment ça se passe et puis qu'est-ce qui se dessine et pourquoi une nouvelle négociation aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et tous, merci de l'invitation. Juste deux, trois petits compléments, parce que ce qu'ont dit Claire et Anne était, était déjà pas mal complet, mais on peut rajouter deux, trois éléments, par exemple, sur le fait que, Claire l'a dit, ce qui est en augmentation, ce qui est en jeu, ce sont justement l'augmentation du nombre de travailleurs précaires. Ce sont déjà les victimes des conventions d'assurance chômage de 2011, de 2014 et de 2017, puisque depuis 2016, on est en négociation permanente. Il y a des négociations tous les ans. Là, et notamment à diverses reprises, bien sûr, plus tôt que prévu du fait de la loi. Mais déjà, les intérimaires ont perdu des droits, les allocataires ont perdu des droits en 2017 dans ceux qui étaient justement le... Alors on dit le cumul, mais d'ailleurs c'est un terme impropre parce que ça fait tout de suite penser à cumul des mandats, mais en réalité c'est de l'alternance entre chômage parfois indemnisé, une fois sur trois, et des petits boulots. D'ailleurs, il y a aussi un autre vocable que MEDEF cherche à imposer, vous connaissez bien la bataille sémantique, mais on nous parle de contrat court parce que le MEDEF a bien voulu envisager éventuellement qu'on discute des contrats de moins d'un mois qui ont été réunis sous ce nouveau vocable de contrat court, alors qu'en réalité la précarité elle a des formes immensément plus variées, très inventives. Par exemple, quand on regarde justement la question des contrats courts, et bien on se rend compte que c'est plutôt des hommes jeunes du fait des métiers techniques concernés par l'intérim pour les contrats de moins d'un mois, alors que la précarité des femmes de 50-60 ans, elle prend plutôt la forme de temps partiel, très très partiel, mais en CDI. Donc c'est alors ça on le retrouve dans des statistiques par exemple de l'UNEDIC très très bien caché dans la presse d'un rapport sur la trajectoire financière au mois de juin dernier où il y a un petit chapitre sur les contrats courts mais une statistique qui nous donne pas pendant les négociations 6 mois plus tôt alors qu'ils les avaient hein, voilà. Donc ça explique des choses. Et puis un autre élément aussi de contexte, pour compléter aussi ce que disait Anne, c'est la création du corps de contrôleur qui a déjà été fait depuis quelque temps et que le gouvernement et que le Pôle emploi en elle-même ont développé. On a déjà des éléments sur ce que ça donne, puisque du coup, bien évidemment que c'est déjà un déséquilibre quand on se retrouve dans la situation d'être au chômage, d'être dans la recherche d'emploi avec la pression que ça occasionne face à un agent de Pôle emploi qui, bon, en général, sont plutôt à essayer de faire leur mieux possible pour aider les gens. Mais là, on parle de contrôleurs qui ne verront pas les demandeurs d'emploi. Ce sont des contrôleurs qui, à distance, vont faire des contrôles aléatoires, voire vont contrôler des dossiers qu'on leur a transmis comme, en quelque sorte, des dénonciations, comme des possibles manquements à la recherche d'emploi, mais qui ne connaîtront pas les gens. Le seul contact direct qu'ils pourraient avoir avec eux, c'est par mail ou par téléphone, mais ils ne les verront pas. Évidemment, l'empathie dans ce cadre-là est un peu moins grande. Hein, et donc ça, c'est aussi un point extrêmement important. Alors, et pour pouvoir passer et répondre à la question, évidemment, la question qu'il y a derrière là-dessus, c'est... les libéraux au pouvoir, avec les nuances qu'il y a entre le patronat et le gouvernement, mais qui sont quand même plutôt de la famille, la même famille, tout ça, c'est, on nous vient nous dire, par exemple, qu'on fait le choix du travail contre l'oisiveté ou contre l'assistance ou contre, voilà. Bon, en fait, on fait le choix du travail précaire. Quand on regarde les exemples qui ont été pris, par exemple, Royaume-Uni ou Allemagne, on nous dit, ah ben, le taux de chômage est beaucoup plus bas. Et puis, en même temps, on se garde de nous dire que le taux de précarité, la proportion de travailleurs pauvres est 5 fois plus élevée en Allemagne qu'en France, et que les offres d'emploi raisonnables là-bas, c'est pour un jeune de 25 ans par exemple qui est pas marié, moins de 25 ans en Allemagne, c'est n'importe quel boulot n'importe où en Allemagne, à n'importe quels horaires et n'importe quelle durée de contrat. Voilà. Donc sinon, pas d'allocation. Ça éclaire les propos d'Emmanuel Macron quand il croise le jeune horticulteur qui lui dit, moi je cherche, j'envoie des CV partout. Bon, on lui dit, Si, il y a du boulot, va travailler quelques heures à la plonge, quelques jours par semaine dans le restaurant d'en face. C'est ça la question. Et c'est bien évidemment ça qu'il y a derrière. C'est t'es responsable de ton chômage parce que du boulot précaire, il y en a plein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, et ça, on le voit bien, puisque évidemment, quand on commente les chiffres du chômage, comme disait Claire, on nous parle de hausse, de baisse de la catégorie A. En réalité, on occulte l'explosion des contrats précaires qui sont les catégories B et C et qui sont le cœur de la négociation depuis au moins 2011 et en tout cas 2014, 2017 et encore cette année puisque on nous reparle alors déjà donc encore une fois circonscrite au contrat court alors qu'il y a plein d'autres formes de précarité avec un patronat qui refuse d'envisager toute forme de mesure contre la précarité. Alors, petite précision, donc ces négociations, elles n'auraient pas dû avoir lieu cette année. La convention d'assurance chômage, elle dure normalement jusqu'au 30 juin 2020. Donc la loi permet au gouvernement plusieurs choses. Non seulement de faire réouvrir la négociation immédiatement, de lui donner le pouvoir de cadrer la négociation, donc par une lettre de cadrage essentiellement financière et qui cible très précisément tous les dispositifs d'activité réduite, donc justement tous ceux qui sont concernés par l'alternance, enfin, qu'on appelle le cumul, mais l'activité réduite, l'activité conservée, etc. Je vais revenir un petit peu. Et puis, bien évidemment, qui exige une proportion d'économie considérable. On sait même que ça s'est décidé au mois de juillet, alors que la première version de la loi était déjà passée à l'Assemblée nationale. C'est au mois de juillet, quand ça passait, ça entamait sa lecture au Sénat. D'un seul coup, mauvaise prévision de croissance, enfin moins bonne que prévu pour le gouvernement. Où est-ce qu'on pourra aller taper quelques milliards? Tiens, il y a la loi sur les chômeurs. On va rajouter et on change la loi. Alors qu'elle avait déjà été votée par la majorité parlementaire en première lecture à l'Assemblée, pour pouvoir permettre cette réouverture de négociation exigeant des économies. Et évidemment, et en plus, ça rejoint ce qui a été dit sur la formation, de toute façon, si le résultat ne plaît pas au gouvernement, il s'est donné les moyens d'appliquer ce qu'il veut tous les ans. Alors, un petit passage sur le passage de la cotisation à la CSG, la suppression de la cotisation salariale à la CSG, outre l'escroquerie qu'on connaît sur la soi-disant hausse du pouvoir d'achat que ça occasionne, évidemment, le passage d'une cotisation sur un salaire qui ouvre des droits à un impôt, la CSG, qui n'est pas de même nature, ça change la nature de la protection sociale. Ça justifie le fait que l'État, du coup, est bien bon de vous accorder des droits, donc va lui permettre d'augmenter la charge des devoirs. Mais ça permet aussi autre chose. Ça permet de contrôler tous les ans ce qu'on laisse à l'assurance chômage à travers le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est qu'une convention, normalement, à part quelques ajustements, elle faisait ses effets sur 3 ans. Là, chaque année, au moment du vote des lois de finances, on peut décider de ne pas, le gouvernement peut décider de ne pas compenser intégralement la part de CSG qui est censée couvrir exactement la même somme que ce qu'aurait généré la cotisation salariale. Et c'est notamment prévu dans pas longtemps, quand l'UNEDIC aura retrouvé son équilibre, ce qui est déjà envisagé. Alors, comment ça se passe dans la négociation? On a plusieurs parties en présence. Bon, on a un gouvernement qui... Pour le coup, il y a un truc un peu plus franc à travers les deux cadrages, le pilote un peu plus les éléments. Bon, on savait déjà qu'il y avait des allers-retours avec le gouvernement, puisque derrière, une fois après une négociation, dans les négociations précédentes, il fallait un agrément, et donc il fallait que les signataires potentiels se mettent un peu d'accord aussi en amont sur ce qui serait acceptable par le gouvernement. En gros, il y avait déjà un objectif chiffré, en réalité, mais là, il est un peu plus précis. Le patronat, lui, il veut des économies sur le dos des chômeurs, il veut réduire la dépense publique, donc les comptes de l'UNEDIC sont assimilés à des dépenses publiques comme les comptes de la Sécu, donc il faut baisser les droits. Et puis, il n'a pas du tout l'intention de renoncer à la précarité, il s'en gave, même pas entre employeurs qui pourraient juger qu'il y a des concurrences déloyales. L'employeur qui emploie des CDI qui se retrouve en concurrence avec une entreprise qui ne fait que des contrats précaires, on va considérer qu'elle pourrait... estimer qu'il y a une régulation possible, mais même pas là. Et puis, on a les signataires habituels de la négociation des conventions assurance chômage du côté syndical. Bon, la CGT n'a jamais signé de convention UNEDIC, pour des raisons historiques, mais en tout cas, dans les dernières fois, c'était au moins parce que ce n'était quasiment que des baisses de droits des demandeurs d'emploi indemnisés. Et puis, tous les 4 autres signent. Parfois, FO signe, parfois signe pas, a signé la convention 2017, la CGC n'a pas signé la convention 2014. Bon, on verra bien cette année ce que ça donnera. S'il y a une négociation, parce que ce qui est intéressant, et c'est là que c'est toujours bien d'avoir une petite note d'espoir, c'est que finalement, on était lancé sur une négociation qui était une locomotive pas prête de s'arrêter. Le gouvernement vote sa loi cet été, le promulguer le 5 septembre, sort une lettre de cadrage le 25 septembre, lançant l'ouverture de la négociation. Bon, petit mouvement d'humeur de l'ensemble des organisations patronales et syndicales. D'ailleurs, on est d'accord à ce moment-là, curieusement, avec le MEDEF, à dire que vous floutez de nous le passage à la CSG, la laisse très courte pour négocier. Bon, voilà. Mais la négociation commence. Bon, nous, on s'inscrit pas dans la lettre de cadrage et on refuse de déchirer la lettre de cadrage le 9 novembre au départ des négociations pour signifier qu'on n'entrait pas dans la logique d'économie. Mais bon, la négociation commence et globalement, c'était prévu que fin janvier, ce soit signé et qu'il y ait un accord qui respecte au moins la lettre de cadrage. On est là-dessus. Et puis, il y a eu les mouvements sociaux que vous connaissez. D'abord, ça a occasionné quelques retards, des annulations de séances le 11 décembre. Puis, donc, un report, une lettre demandée, donc, signée par tous les autres, les quatre autres organisations syndicales et une organisation patronale, et les trois organisations patronales, qui demandent au Premier ministre un report d'un mois. Nous, on a refusé de signer cette lettre, ils nous l'ont proposée, parce qu'on a dit que ce n'est pas le report d'un mois qu'on voulait, c'était la disparition de la lettre de cadrage. Report d'un mois. Jusqu'à fin février, donc on est rendu là. Et puis là, il se dessine que peut-être finalement, donc il y a eu le mouvement d'humeur la semaine dernière du patronat qui ont trouvé que le semblant de coup de barre à gauche, je veux bien dire le semblant de coup de barre à gauche de Macron pour dire que oui, il y aura un bonus-malus, a pas plu aux organisations patronales qui se sont dépêchées de dire qu'ils suspendaient la négociation la semaine dernière. Puis finalement, ils y reviennent après avoir discuté avec le Premier ministre. Et ils cherchent en gros à essayer de sortir de cette négociation-là sans perdre la face, mais dans une période où c'est un peu difficile de faire passer des baisses de droits sociaux. Évidemment, ils ont bien l'intention, Macron l'a redit le 10 décembre, il l'a redit dans ses voeux, ils ont bien fait l'intention de faire la réforme à la baisse. Mais ça passe plus difficilement, y compris, on l'a vu, avec la polémique qu'il y a eu tout début janvier sur le décret de loi sur les sanctions dont a parlé Anne, où ça aurait dû passer inaperçu, quoi. Et c'est pas du tout passé inaperçu. Pourtant, c'est très difficile d'attirer l'attention sur le sujet de l'assurance chômage, mais ça a fait une polémique bon, qui est aussi tombée dans le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité juste entre Noël et le premier de l'an, mais tant mieux pour nous. Et donc, là, ce qu'ils sont en train de se dire, c'est que c'est compliqué de sortir des baisses de droits d'ici fin février. Deux, les positions entre signataires habituels, patronat et CFDT, par exemple, sont encore très, très divergentes. La CFDT continue d'affirmer qu'elle ne peut pas se passer d'un bonus-malus. Et le patronat dit qu'il n'en est pas question. Et le gouvernement, Macron dit qu'il en faut un. Et le gouvernement, dans sa lettre de cadrage, ne l'a pas écrit. Donc il y a des dissensions, y compris entre Premier ministre, ministère du Travail, à l'intérieur, et président. Donc, ils sont en train de chercher la fenêtre de tir pour que ce ne soit pas maintenant. Là, dans les échos aujourd'hui, il y a un petit article qui laisse entendre que peut-être la négociation, elle ne terminerait pas le 20 février, qu'elle pourrait se terminer après les européennes. Alors, voilà. Et puis, donc, peut-être au début de l'été, parce que c'est pratique l'été pour faire des mauvais coups. Donc ce ne serait pas impossible, puisque ça reprend le 14 et le 20, que ce soit que ça parte dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas si on parle maintenant des différents systèmes de bonus-malus ou si c'est pour la question d'après.
C'est pour la question d'après.
Bon, voilà. Donc, sur les négos, voilà. Et donc, une petite phrase de conclusion pour cette première question, pardon d'avoir été long. C'est comment on fait pour attirer l'attention, parce que plus on attire l'attention sur ces négociations, plus nous, déjà, on se retrouve seul à la table des négociations. Et notre objectif est très clair, tout le monde le sait, c'est de faire péter cette lettre de cadrage. Je dis ces lettres parce qu'il y a aussi la lettre aux intermittents par déclinaison qu'on n'a pas respectée non plus. De faire exploser ces lettres de cadrage, et cette lettre notamment du gouvernement. Et plus c'est médiatisé, plus on arrive à en parler, plus on arrive à y compris mobiliser sur cette question-là, très difficile évidemment, plus on a des chances d'y arriver. Il y a un petit espoir, c'est que par exemple, il y a des assistantes maternelles qui sont des professions par nature très difficiles à mobiliser, puisque ce sont des femmes isolées avec des employeurs particuliers qui changent tout le temps, qui se sont mobilisées à force d'avoir attiré l'attention sur un des systèmes qui pourrait être mis en cause, qu'on appelle l'activité conservée. Elles ont généralement trois enfants et donc trois contrats en même temps. Elles en perdent un ou deux, pas au même moment, parce que les enfants partent à l'école. Et il y a eu un groupe Facebook qui s'est mis en place, contactant les syndicats CGT et FO, et avec 29 rassemblements samedi dernier, dans 29 villes de France, avec une autre proposition de mobilisation le 9 mars, évidemment en lien avec le 8 mars, puisque à 99,9% sont des femmes, avec des situations de précarité, enfin de salaire généralement très bas. Donc, il y a des choses qui se mettent en place dont il faut espérer que ça prenne un petit peu d'ampleur.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires avec, bien sûr, le AC1920. Au micro, il y a donc Christophe. Salut Christophe à nouveau, pour ceux qui nous rejoignent.
Rebonsoir.
Claude et Gilles au micro. Vas-y Claude.
Bonsoir.
Ludo, excuse-moi. Et bien sûr, Claude à la technique. Une petite annonce d'abord. Les salariés d'Emera obtiennent leur embauche directe à l'hôtel. 10 mois après avoir obtenu d'importantes avancées suite à une grève de 111 jours, qui s'est achevé par une première victoire le 8 février 2018, la direction de l'hôtel Holidays Inn Clichy, contraint de négocier en août 2019 la fin de la sous-traitance, a avancé celle-ci en virant les négriers de la société de nettoyage Emera et en embauchant directement le 21 décembre 2018 les femmes de chambre, gouvernantes, équipiers et plongeurs. Le 6 mars, à partir de 18h30, tous à la Bourse du Travail à Gennevilliers. 6 rue de Lamartine, 92 230, Gennevilliers, métro, les Agnettes, ligne 13. Voilà, on reprend cette émission pour parler bien sûr maintenant des bonus-malus par rapport aux contrats courts.
Alors,
qui sont remplacés bien sûr par, Christophe ?
La prime à la précarité. Alors, l'histoire des contrats courts bonus-malus, c'est le point d'achoppement qui a évidemment frictionné énormément entre les organisations patronales et les organisations syndicales et représentants des salariés, hein, mais aussi des chômeurs et précaires, hein, on l'oublie. Et monsieur donc le patron du MEDEF, monsieur Godefroy Roux de Bézieux, a déclaré, a formulé une proposition alternative par rapport à ce bonus-malus. Il souhaite une innovation sociale sans précédent. Alors là, on est en plein Gorafi, une prime pour récompenser la précarité. Alors, tout simplement parce que les négociations sur l'assurance chômage sont au point mort. En cause, comme je l'ai dit à l'instant, le problème de recours devenu quasiment systématique des contrats courts par les entreprises, à tel point que la ministre du Travail elle-même, qu'on soupçonne peut vraiment être du côté des salariés, a évoqué un retour aux journaliers. Tant on a explosé la barre des CDD qui n'ont duré qu'une seule journée, ce qui fut le cas des 20% des CDD signés en 2007. C'est pas rien, hein. Au cours de sa campagne, Emmanuel Macron avait fait de l'instauration d'un bonus-malus sur les contrats courts son cheval de bataille. Proposition aujourd'hui, bien sûr, contestée par les principales organisations du patronat, le MEDEF en tête, refusant tout compromis éventuel sur l'instauration d'un bonus-malus. Le patronat a même quitté un temps les négociations pour protester contre cette proposition. Ça s'appelle le dialogue social. Et là.
La politique de la chaise vide.
Voilà. Et là. La réponse du MEDEF au contrat court. Une prime pourrait compenser la précarité. Ce sont les termes mêmes de Geoffroy Roux de Bézieux qui détaille le plan qu'il envisage à partir de 3h30, de 3 minutes 30 sur une vidéo qui est donc diffusée sur France Inter le 14 février dernier. Maintenant, nous, on fait une proposition splendide. Écoutez bien.
C'est une sorte de prime au mérite, quoi.
Voilà, proposition alternative au bonus-malus dont on pense que c'est un destructeur d'emploi. Ah oui. Et ce qu'on propose, c'est que les salariés qui enchaînent plusieurs contrats courts avec le même employeur et dans le même mois se voient payer à partir d'un certain nombre de contrats courts une prime dite de précarité qui sera payée par l'employeur et qui serait en quelque sorte la récompense financière de cette précarité, de cette flexibilité. Il faut récompenser le jour présent. Et la précarité. Alors, vous avez bien entendu, hein, c'est une prime à la précarité, à la flexibilité, qui serait évidemment versée de surcroît au bout de plusieurs contrats courts. On connaît pas le nombre. Et ben alors, de quoi faire de la précarité? Non plus un problème structurel, mais bien un mal permanent que seuls les courageux oseront affronter. On souhaite bien du plaisir aux futurs salariés qui vivront un tel bonheur.
On aura l'occasion d'en reparler. Merci Christophe. Alors, cette émission se termine pour la rediffusion. Mais restez avec nous parce que nous prenons la parole par la suite exceptionnellement.